Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Le moment est venu de suivre Franck Ferrand dans une nouvelle incursion au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je ne songe pas assez souvent à saluer celles et ceux si nombreux qui nous écoutent en podcast, alors que vous nous emportiez avec vous en train, sur votre chaise longue ou dans votre footing. Sachez que nous sommes très fiers de votre fidélité.
Alors en quel siècle nous emmenez-vous aujourd'hui Franck?
Eh bien dans le beau 18e Julia, oui. Et dans la belle Italie.
Ah.
J'aimerais vous raconter en effet le périple endiablé de 4 gays compagnons de voyage à travers Milan, Florence, Rome, Naples et même Venise. Nous serons en 1750. J'aimerais vous préciser aussi que l'un des 4 est le jeune frère de Madame de Pompadour. Ce sujet vous paraît un peu mystérieux, ben tant mieux, c'était le but.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Peut-on imaginer Paris sans la place de la Concorde et l'hôtel de la Marine, demande Monique de Magny, qui est avec nous dans ce studio, sans le Panthéon, la Madeleine, la Grande Percée des Champs-Élysées, sans le théâtre de l'Odéon? Tout cela, nous le devons à Marigny. Et j'ajouterais volontiers, nous le devons au voyage miraculeux accompli par ce fameux Marigny en Italie dans sa jeunesse. Hier soir sur France 3, Patrick de Carolis proposait un nouveau magazine culturel intitulé Le Grand Tour. Eh bien, le Grand Tour, autrefois, ça désignait l'espèce de voyage initiatique que les jeunes gens de bonne famille, venus d'Angleterre d'abord, mais aussi du nord de l'Europe et bien sûr de France, effectuaient à travers la péninsule italique pour aller parfaire là-bas leur culture ancienne et cultiver leur sens esthétique, pour ne rien dire des autres sens. En fonction des moyens du jeune voyageur et de ses relations, le périple pouvait durer quelques semaines ou bien quelques mois, et quand les relations étaient puissantes et les moyens illimités, cela pouvait évidemment s'éterniser. Au beau milieu du XVIIIe siècle, en 1750 exactement, un de ces jeunes privilégiés a eu l'occasion d'effectuer en Italie le plus grand tour qu'on puisse imaginer. Ce garçon se nommait Abel François Poisson. À la cour, on l'appelait Monsieur de Vandières. Bientôt, il allait devenir très officiellement le marquis de Marigny. Qui était-il, au tout bonnement, le petit frère chéri de la marquise de Pompadour, à cette époque toute puissante maîtresse du roi Louis XV? La marquise avait obtenu pour son frérot, comme elle l'appelait, la survivance, c'est-à-dire le brevet de succession de la charge qu'occupait son parrain, le Normand de Tournehem, à la tête des bâtiments et manufactures du roi. Autrement dit, on attendait la mort du vieux monsieur de Tournehem pour faire du bienheureux Abel l'équivalent de nos ministres de la culture et même un peu plus que cela. Problème, Abel n'avait que 23 ans, sa culture n'était pas vraiment florissante et son goût artistique restait entièrement à former. Qu'à cela ne tienne, Madame de Pompadour n'est pas longue à trouver la solution. Elle opte pour une sorte de formation accélérée sur le tas et elle décide d'envoyer son frère en voyage de l'autre côté des Alpes avec assez de lettres de recommandation pour se faire ouvrir les portes des plus fabuleuses collections. Et vous savez, les grandes collections de peintures, de sculptures, de dessins, tout ça est en Italie à cette époque. Madame de Pompadour ne faisait jamais les choses à moitié. Aussi voulut-elle aller plus loin. Afin que le jeune Abel tire le maximum de profit intellectuel de toutes ses visites, elle eut l'idée de lui adjoindre 3 compagnons de voyage qui, en matière de beaux-arts, étaient parmi les plus avertis, parmi les plus éclairés de la France des Lumières, si j'ose dire. À savoir l'abbé Jean-Bernard Leblanc, critique d'art, capable de faire comprendre à un esprit en formation les artistes et les intentions des artistes. le graveur Charles-Nicolas Cochin, qui était capable de repérer un chef-d'œuvre à 100 pas d'un seul coup d'œil, et l'architecte lyonnais Jacques-Germain Soufflot, qui non seulement était un esprit encyclopédique, mais faisait profession de nouveauté, pour ne pas dire d'innovation, sur le chapitre de l'art. Monsieur Soufflot, il estimait que le temps du style rocaille, ce que nous appelons le Louis XV, était fini. Il ne jurait que par des formes épurées, droites, à l'antique, des formes qu'on devait qualifier un jour de néoclassiques et que nous appelons, pour faire vite, le Louis XVI. Et c'est toute l'importance de ce voyage. On oublie souvent que la révolution politique de 1789 a été annoncée et comme préfigurée dès le milieu du XVIIIe siècle par une révolution d'ordre esthétique. Un véritable basculement du goût, c'est l'entrée dans le néoclassicisme. Soufflot, Cochin, Leblanc, telle fut donc la triade rêvée dont la marquise entoura son petit frère pour son beau voyage. Un peu comme si à travers lui, elle avait eu elle aussi envie de voyager, de s'évader loin de cette cour versaillaise qui ne lui faisait pas de cadeaux. C'est une règle un peu cynique, j'en conviens, mais elle est efficace. Derrière un beau geste éducatif, cherchez et souvent vous trouverez le puissant tuteur, en l'occurrence la puissante tutrice qui se fait plaisir. Il y a quelques années, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, j'ai eu accès à une, je dis quelques années, ça remonte bien à 15 ans, hein, cette affaire. J'ai eu accès à une grosse liasse de lettres reçues, je dis bien reçues, par le jeune Abel de Vandières pendant son périple à travers l'Italie. Ça m'avait donné l'idée, assez vite abandonnée, je dois dire, d'en tirer une grosse nouvelle, dont je vous livre sans prétention et si vous le voulez bien, les premières lignes. Charles Cochin, dit le jeune, en dépit d'un âge déjà mûr, marchait alors sur ses 35 ans. Il en savait assez long sur la vie pour tirer son épingle des jeux les plus ingrats. Dessinateur et graveur, à l'instar de son père et de sa mère, il maîtrisait supérieurement les deux talents, mais il ne bornait pas son art à l'eau forte et à la taille douce. Mener carrière lui paraissait plus utile encore, et personne ne savait mieux que lui jouer de l'opportunité. Une après-dînée, on disait comme ça à l'époque, on dirait nous une après-midi, de 1749, le messager de la Providence lui apparut sous les traits d'un dignitaire. Monsieur de Tournehem était le directeur général des bâtiments, jardins, arts, manufactures et académies du roi. Autant dire que rien de beau ne se créait dans le royaume sans son approbation. Qu'il fût parent de Madame de Pompadour, pour ne pas dire son véritable père, le rendait encore plus considérable aux yeux de l'habile graveur. Ce jour-là, donc, un lundi pluvieux d'octobre, la berline de la surintendance avait fait une entrée tapageuse dans la cour de l'atelier parisien des Cochins. Le grand commis du roi, sombre et las, avait traîné sa pelisse jusqu'à l'âtre de la grande salle. Toussant et se frottant les mains devant le feu vif, il avait coupé court aux platitudes de Cochin. « Sa Majesté vous apprécie », avait-il glissé entre deux quintes. L'artiste leva un sourcil noir étrangement mobile. Voilà comment ça vraiment l'autre. Vous savez sans doute que la marquise a fait nommer son cher frère à la survivance de ma charge. Le jeune Vandière est un gentilhomme convenable, mais il est bien court encore et l'expérience lui fait défaut, surtout dans les choses de l'art. Le graveur esquissa un sourire. Tournehem soupirait. Dans sa position, c'est une lacune et des moins supportables. Et pour moi, vous le voyez bien, leur approche, je me fais vieux, l'on s'impatiente. Enfin, parlons clair, Madame de Pompadour vous prie d'inculquer au plus vite le génie des arts à son frère, afin que je sois libre de tirer ma révérence. Il jeta vers l'artiste un regard bref. Vous pourriez peut-être, précisa-t-il, accompagner notre galopin outremont. Vous seriez défrayé, naturellement, et même dédommagé. Cochin ne sortait pas de son prudent silence. 3 années de loyaux services à la direction des menus plaisirs lui valaient de bien connaître son visiteur. Il savait notamment que le grand homme ne comprenait rien mieux que le donnant-donnant. « C'est que le manque à gagner pour nous autres serait considérable, finit-il par répondre, et sans attendre la proposition. Et puis, il nous faudrait Monsieur Soufflot entière. » Le vieux directeur gagna aussitôt la porte. À ses yeux, l'affaire était conclue. « J'avais songé à l'abbé Leblanc, lâcha-t-il en sortant. » Dont les lettres sont si savoureuses, mais si vous voulez Soufflot, grand bien vous fasse, vous n'aurez qu'à l'attraper en route. Ainsi fut décidé, comme pour exaucer un caprice, le fameux voyage qui devait si durablement changer le visage de l'architecture et du style en France et au-delà, dans toute l'Europe. Thank you.
Orage, extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, Franck.
Vous avez compris que le jeune Abel de Vandière a beaucoup de chance. Il va partir en compagnie de trois très grands esthètes pour un voyage en Italie, avec en poche quelques sésames pour se faire ouvrir les palais, les galeries, les cabinets de curiosité de ce que l'Europe de l'époque compte de plus riche, de plus inépuisable en fait, collectionneur. La berline de voyage, suivie d'une autre voiture avec tout le nécessaire pour cahoter sans trop de mauvaises surprises, quitte Paris au petit matin du vendredi 20 décembre 1749. Alors je vous fais grâce de l'interminable route hivernale jusqu'à Lyon, où l'on récupère Soufflot, puis de Lyon à Lens-le-Bourg et au-delà du Mont-Cenis sur des routes de moins en moins sûres, de plus en plus enneigées. En vérité, ce voyage jusqu'au paradis des arts s'était révélé assez éprouvant. Auberges incommodes, routes semées de fondrières, mauvais repas, rencontres importunes et toujours le froid, l'humidité, le gel même inhérents à la saison. Il n'en goûterait que davantage le soleil du midi lorsque celui-ci finirait par se montrer. Le 24 janvier, ils parvinrent enfin à Turin et eurent la chance d'aborder la ville avant que le soir ne tombe, écrit Monique de Magny dans Le rêve de Marigny. Bien sûr, les jours précédents, ils avaient traversé des villages, ils avaient fait halte dans des bourgs, des petites villes où les auberges avaient des cheminées. Le pire était passé, mais on était encore loin de la civilisation. La vue plongeante sur Turin, sous l'éclat un peu métallique du soleil de janvier, était un pur bonheur. En descendant les collines qui cernaient la cité, ils découvrirent en même temps le cours majestueux du Pô, dont les eaux léchaient les murs de la ville et la masse harmonieuse des constructions. Leur admiration ne fit que croître quand leur voiture s'engagea dans les rues longues et larges, toutes pavées, bordées de colonnades sublimées par l'élévation de bâtiments superbes. Les places, dont la plus neuve était entourée de portiques, emportèrent aussi leur admiration. Ce n'était que le premier coup d'œil, mais il laissa les voyageurs confondus. Cela fait toujours cet effet, l'Italie, la première fois. D'abord, cette lumière si pure, si nette, et puis les couleurs qui vous enchantent au sens propre, qui font chanter en vous quelque chose, et le roulement des bruits joyeux, ce mélange unique de très grandes tenues, le moindre immeuble a ses pilastres, ses frises, ses frontons, et de très grands relâchements, les très grands vélums aux fenêtres, parfois déchirés, le pittoresque partout, nulle part la laideur, même dans la plus lépreuse des petites cours, et puis ces palais, ces jardins, ces perspectives, ces ruines, bien sûr, ces jolies tavernes, des langues variées au XVIIIe siècle, des mœurs exotiques, comme nous l'a appris le président de Brosse, ce Dijonnais qui voyageait en écrivant de belles lettres, un mélange d'étrangeté superficielle et au fond de très grande familiarité. Tous romains, en fin de compte, semblent dire aux voyageurs les merveilles inépuisables qu'ils ne cessent de découvrir. Sur n'importe qui l'effet est assuré, sur le jeune Abel Poisson de Vandière, futur marquis de Marigny, il va être puissant, que dis-je ? Il va être historique.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Monique de Magny, qui est professeur d'histoire et auteur de l'ouvrage que vous avez cité dans votre récit, Le rêve de Marigny, aux éditions Jean-Claude Lattès, également avec nous. Xavier Salmon, qui est conservateur général du patrimoine, directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau.
Fontainebleau, dont nous parlons régulièrement à ce micro, nous aurons l'occasion avec Xavier Salmon notamment d'y revenir un de ces jours, volontiers. Il se passe toujours quelque chose à Fontainebleau. Qu'est-ce qu'on y fait en ce moment ?
En ce moment, nous rendons hommage au séjour organisé par Eugénie pour ses invités, donc, et comment elle transformait cette admirable maison en hôtel de luxe.
Alors Monique de Magny, vous avez écrit un livre que j'aurais aimé écrire, si je puis dire, et j'en suis ravi parce que c'est très bien fait, c'est un bonheur, vous nous emportez aux côtés du marquis de Marigny, de ce frère méconnu de la marquise de Pompadour. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'était presque l'inverse. Marigny, notamment sur la fin du règne de Louis XV, était devenu un personnage d'une importance considérable et qu'on connaissait finalement presque mieux que la marquise. Alors avant de venir sur la biographie et sur la postérité de Marigny, avant d'essayer de voir tout ce que nous lui devons, notamment à Paris, mais pas seulement, bien sûr, j'aimerais que nous poursuivions nos quatre voyageurs sur les routes de l'Italie, une Italie qui évidemment est la belle Italie du président de Brosse, Brosse, hein, je le disais à l'instant. Le président de Brosse effectue ses voyages au tout début des années 1730. Là, on est 20 ans plus tard, mais c'est quasiment la même chose. Si vous n'avez pas lu les lettres du président de Brosse, là, je m'adresse à nos auditeurs, il faut absolument s'y plonger, car c'est un bonheur à chaque page. C'est un dépaysement total. Je suis comme Julia, moi, je suis amoureux de l'Italie.
La bellissima Italie.
Ah, c'est merveilleux, cette Italie, dès que vous vous y plongez. Je suis heureux, d'ailleurs, d'avoir pu faire revivre un peu ça tout à l'heure, parce que dès que vous y allez, ne serait-ce que 4 ou 5 jours, vous avez l'impression de rentrer régénéré. Et alors là, eux, ils ne vont pas y rester 4 ou 5 jours, ils vont y rester 18 mois. Toute l'année 1750 et toute la première partie de l'année 1751, dans cette Italie d'autant plus extraordinaire qu'ils en voient le meilleur, bien entendu. Quand on est le beau-frère, si j'ose dire, du roi de France, on se fait ouvrir toutes les collections. C'est tout à fait... ce qu'ils ont vu est extraordinaire.
Oui, tout à fait. C'est, je crois, dans la vie de Marigny, moi, je le ressens comme sa plus belle période, c'est-à-dire du point de vue personnel. Il a un réel bonheur à faire ce voyage d'Italie. Il va en rapporter beaucoup, mais il y a une découverte, une joie de la découverte pour lui, de la découverte de l'architecture, de la peinture, etc., mais de la découverte de l'Italie. Du soleil, de la lumière, des gens.
Et finalement, avant de découvrir les collections et avant de se former à l'art, et Dieu sait qu'il va être marqué à vie par ce qu'il découvre là-bas. On est au tout début des fouilles d'Herculanum et de Pompéi. Il va être frappé par l'antique, si je puis dire. Avant cela, effectivement, c'est l'Italie elle-même avec sa spécificité, son pittoresque qui vont le charmer. C'est normal, c'est un tout jeune homme encore à l'époque. Hein, il a 23 ans quand il arrive là-bas.
On sent bien, à la fin du voyage d'ailleurs, quand sa sœur commence à lui demander de revenir, que bien sûr qu'il va revenir, bien sûr qu'il a conscience de la charge
qui l'attend.
Elle l'a élevé, entre guillemets, et il est prêt à remplir son rôle et à faire son devoir. Mais on sent bien qu'il a du mal à s'arracher à cette attirance, ce bonheur.
Il restera italien de cœur jusqu'au bout.
Ah oui,
bout,
il
finalement.
Restera italien.
Xavier Salmon, les trois grands personnages, enfin deux grands personnages plus l'abbé Cochin qui l'accompagne, avaient reçu des missions officielles. Évidemment, on ne les a pas envoyés uniquement pour accompagner le frère de Madame de Pompadour. Ça aurait paru un peu népotique comme attitude. Donc on leur a donné des missions officielles et notamment à Soufflot de relever des plans de théâtre car on manquait en France d'un grand théâtre classique en fait.
Oui, c'est presque la première mission qui est confiée à Marigny. Enfin, avant d'hier à l'époque, de s'intéresser aux questions de théâtre. Et l'un des attraits de l'Italie, c'est la multiplication des cours et par conséquent la présence de très nombreux théâtres tout au long du voyage et qu'il découvre avec beaucoup d'intérêt. Et dans les échanges épistolaires, eh bien, il y a toutes ces informations qui sont envoyées vers la cour de Versailles pour mieux faire connaître les théâtres à l'italienne et ainsi perfectionner ceux qui pourraient être édifiés en France. Et d'ailleurs, on ne dispose pas encore au château de la très belle salle que l'on admire aujourd'hui.
Et oui, l'Opéra Royal qui est au bout de l'aile du nord du château de Versailles, qui ne sera construit qu'en 1770, donc nettement plus tard, 20 ans plus tard. Si vous voulez, on va suivre le programme qui a été le leur. Alors, ils sont arrivés par Turin, bientôt Milan. On imagine le choc, évidemment, lorsqu'on voit tout ce... lorsqu'ils arrivent devant le Duomo, notamment, sans doute. Parme. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où l'Italie n'est pas un État unifié, bien entendu, loin de là. On est encore dans toutes sortes de petites principautés et républiques. C'est une mosaïque incroyable. Donc à chaque fois, on change de pays, on change de cour. Il faut aller présenter ses hommages tantôt au grand-duc, tantôt au doge, enfin aux différents personnages qui dirigent ces petits États. Il y a une vie mondaine effrénée dans l'Italie du XVIIIe siècle.
On a l'impression, à certains moments, quand on se penche sur ce voyage que Vandière, puisque effectivement c'est Vandière à cette époque, que Vandière a beaucoup de mal à se défaire de toutes ces obligations qui sont des obligations mondaines, mais qui sont absolument nécessaires parce que bien que ce soit occulte, il a quand même en second une mission de représentation de Louis XV dans les États italiens. On sait que la marquise de Pompadour est un personnage qui prend de jour en jour
de l'importance.
De poids. Et si on tient à ménager Louis XV, on va ménager le petit frère.
Et notamment le pape, parce que bientôt, évidemment, ils vont faire la découverte qui va être l'une des deux ou trois grandes découvertes de ces fabuleux périples. C'est la découverte de la ville éternelle. Les voilà déjà à Rome.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso.
Cube. En 1996, comme le temps passe, il nous comptait ce voyage en Italie.
Mais l'Italie ne change pas tellement, elle, finalement. Alors Rome, encore moins que le reste de l'Italie. Quoique, malheureusement, quand on s'en va dans certains faubourgs de Rome, aujourd'hui, on se rend compte que ça change beaucoup et même beaucoup trop vite. Ils sont à Rome. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les cicérones, les mentors, les guides de Marigny, enfin, je l'appelle Marigny par facilité. En fait, à l'époque, il n'est encore que Monsieur de Vandières. Ces guides vont prendre leur rôle très au sérieux et lui montrent ce qu'il faut voir. Et pas seulement dans le domaine de l'architecture. On est encore en présence, bien sûr, notamment à Rome, de ruines romaines considérables, mais bien sûr dans le domaine de la sculpture, de la peinture, de choses très fines. On va voir aussi des collections d'intailles, de gemmes, etc. On le forme, tout simplement. On le forme à ce qui va être son futur métier. Monique de Magny, pardon.
Oui, tout à fait. C'est un séjour, bien sûr, qui lui est agréable, mais c'est un séjour qui est très studieux pour lui, en fait. Parce qu'il a tout à fait conscience, qu'il doit rapporter une formation très sérieuse de ce voyage. C'est quelqu'un qui a pris cette charge qu'elle est lui venir avec un goût du travail, avec le sentiment qu'on lui faisait un cadeau énorme et qu'il devait en être digne. Il a d'autant plus d'envie que tout soit parfait quand il va rentrer ou plus proche de la perfection, qu'il sait qu'on va lui reprocher, qu'on lui reproche d'être le frère de la favorite. Eh oui. Et qu'il tient, lui, en fait, il est absolument...
Il veut exister
émerveillé.
Par lui-même, si
voilà,
l'on peut
il
dire.
Il veut exister par lui-même et il veut faire un travail irréprochable. Mais en même temps, il y a aussi ce goût de l'Italie et ce goût de l'art dans lequel il est immergé et qui ne le quittera jamais. Il aura les plus belles collections qu'on peut avoir en France à cette époque.
Ah oui, il est un des très grands collectionneurs du 18e siècle. Il avait la réputation de n'être, si vous me passez l'expression, pas très rigolo quand même au quotidien.
Alors, vous savez, certains, je pense à D'Argenson,
un mémorialiste de l'époque,
de Fort du Cheverny, des gens qui lui ont fait de très mauvais procès parce qu'il a quand même, il suscite des jalousies. Il est arrivé là où personne ne l'attendait, et on a espéré le voir tomber. Parce qu'enfin, un petit jeune homme de 22 ans, 23 ans, à 23 ans, on lui donne les bâtiments du roi, c'est pas rien, et on pense bien qu'il va pas tenir. Donc, on ne l'aime pas et on dit du mal de lui. Bon, ça, c'est quelque chose de très normal.
Ce qu'il faut dire, c'est le coup du sort, c'est que son voyage sera, c'est vrai, après 18 mois, tout de même, mais son voyage sera interrompu par la mort de Lenormand de Tournehem, donc du directeur des bâtiments. Et donc, on le rappelle très vite à Versailles, car il faut qu'il prenne la suite.
Voilà. Il arrive un petit peu en urgence, en quelque sorte. Il est préparé, mais je pense que dans une situation comme celle-là, on doit toujours quand même avoir l'impression qu'on est tombé là et que maintenant, ça y est.
Et oui, il va falloir...
Comment est-ce qu'on va atterrir ? Il est guetté, en quelque sorte.
Il faut que vous nous expliquiez, Xavier Salmon, en quoi consiste cette direction générale des bâtiments, arts, manufactures, etc. du roi. J'ai dit tout à l'heure que c'était une sorte de super ministre de la culture. C'est encore plus que ça parce qu'il est à la tête de toutes les commandes publiques qui, à l'époque, sont le nerf de l'art.
Oui, et il s'est entouré de deux hommes qui sont absolument important pour conduire cette politique artistique, qui sont le premier architecte et le premier peintre. Donc Marigny va connaître essentiellement Ange-Jacques Gabriel, qui va être vraiment le support,
premier architecte du roi,
premier architecte, et qui va l'aider à conduire cette politique de construction. Et il va connaître plusieurs peintres successifs, puisque sa carrière sera tout à fait longue. Ce qu'il y a d'important peut-être à souligner, c'est que ce voyage d'Italie a complètement changé sa perception des arts parce que il appartient à un milieu de la au milieu de la finance. Il a été élevé par le Normand et donc il a connu ces intérieurs qui sont des intérieurs marqués par la rocaille, donc ce goût pittoresque,
très, très baroque, très voilà, tourmenté. Hein.
La courbe, la contre-courbe,
c'est ça,
une
un naturalisme très grand
de qualité et de matériaux les plus luxueux et presque en opposition à ce goût qui a bercé les yeux de sa jeunesse, eh bien, il découvre la leçon antique à travers les grands sites italiens. Il rencontre des personnages qui sont extrêmement importants et qui vont aussi influencer son goût, des Italiens. Et les échanges avec Piranèse ont sans doute été extrêmement novateurs pour lui et
oui,
formateurs, parce que il a découvert toute une grammaire ornementale qu'il ne connaissait pas. Et il fait la connaissance d'un certain nombre d'artistes parce que, et ça a été souligné par l'ensemble des contemporains, Marigny est quelqu'un qui écoute, rencontre les artistes, échange avec eux, n'hésite pas à parfois modifier son avis. Et parmi ces artistes qui vont beaucoup marquer son goût, eh bien, il y a Joseph Vernet, l'extraordinaire paysagiste qui s'intéresse avant tout à la nature et qui va recevoir...
qui est à la Villa Médicis,
qui à l'époque est à l'Académie de France, mm-hmm. et qui va donc recevoir une première commande importante qui sera celle des Ports de France. Et Marigny oriente l'architecture, la peinture vers ces nouveaux courants, vers ce néoclassicisme naissant.
Il est allé jusqu'à Naples, il a vu... est-ce qu'il est allé à Paestum ?
Il est allé à Herculanum.
Herculanum,
il a beaucoup visité le site d'Herculanum.
C'est seulement Soufflot qui lui va à Paestum, ce qui est important néanmoins, parce que Soufflot, après tout, est l'architecte de l'affaire, et bien qu'il connaisse, lui, l'Italie, où il a déjà fait plusieurs séjours, quand il rentre de ce fameux voyage avec le frère de la favorite, il a la tête pleine de grandes constructions antiques. Et c'est par Soufflot que va s'imposer dans l'architecture française ce style avec les grandes colonnes, les chapiteaux de feuilles d'acanthe, enfin ce style un peu rigoureux, un peu romain en quelque sorte, qui va marquer alors là longtemps, hein, jusqu'au début du 19e siècle en fait.
C'est un effort conjugué des deux architectes, à la fois Soufflot qui est presque l'ami du directeur des bâtiments, et puis Gabriel
qu'il faut pas oublier, bien
voilà,
sûr.
Qui dans les mêmes années construit pour Madame de Pompadour, par exemple, à Fontainebleau, l'Ermitage, qui est un cube d'une grande perfection, avec un décor d'une très grande sobriété, et qui va...
Le Doubs, Boulay, etc., voilà, par la suite, prendront le relais, en quelque sorte.
Sur le petit Trianon, qui avait été d'ailleurs conçu aussi pour la favorite.
Alors, j'en finis avec l'Italie, parce qu'on y reste très volontiers, mais il faut quand même raconter en deux mots ce qui s'est passé. Donc, il vit un moment à Rome. Il refait pendant son long séjour à Rome. Marigny remonte, lui, à Turin pour assister à un mariage princier. Je passe sur ces détails. Oui. Et puis, ensuite, il va quitter réellement Rome et remonter vers Venise, qui sera encore une grande découverte, la troisième du voyage, si je puis dire, en passant tout de même par Florence, la cité intellectuelle, la cité reine de l'Italie de l'époque. C'est un voyage très complet qu'il a fait.
Ah oui, c'est un voyage très, très complet. Après Venise, c'est encore Padoue aussi,
qui
est
pas Vicence.
Rien, avec toutes les villas palladio, toutes les villas de Palladio qui sont magnifiques. Et c'est vrai que Marigny évolue énormément. Et dans ce personnage de Marigny, ce qui est aussi extrêmement attirant, c'est ce côté visionnaire. Il voit déjà l'avenir. Il change, il veut changer l'art. Et ça, ça lui vient après le voyage d'Italie. Et on est bien sûr toujours dans cette querelle un petit peu des anciens et des modernes qu'on a à, bien sûr, oui, à toutes les époques. Mais lui, il est résolument jeune. Et jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit obligé de se retirer.
Eh bien, sous Louis XVI seulement.
Oui, sous Louis XVI. Enfin non, c'est encore... C'est un an avant la mort de Louis XV.
Toute fin du règne de Louis XV.
Mais jusque-là, il reste quelqu'un de très novateur. Et alors, il y aura des clashs, il y aura des moments très difficiles, mais il ne cède pas parce que il sait comment il veut faire évoluer les choses, et ça, c'est très important. Il y aura des clashs entre Gabriel et Soufflot, parce que c'est vrai que Gabriel est l'homme de la tradition, il est l'homme qui est en place depuis le début du règne de Louis XV.
Et Soufflot, lui, est un peu le révolutionnaire de l'affaire.
Soufflot, c'est le révolutionnaire de l'architecture. Et Marigny avait une passion particulière pour les architectes, même s'il aimait les peintres, même s'il aimait les sculpteurs, parce que les architectes révolutionnent l'espace, révolutionnent la ville. Et il était en admiration devant Soufflot et devant l'œuvre des architectes en général.
Charles-Nicolas Cochin, le graveur, était aussi un excellent auteur. Oui. C'était un très grand critique d'art. Il a, de ce voyage, tiré une relation très savante et très complète, du reste, qui n'est peut-être pas très facile à lire. On ne peut pas la recommander à nos auditeurs. C'est vraiment un ouvrage extrêmement académique et très précis, mais passionnant parce qu'on sait, comme ça, au détail près, ce que ces quatre hommes ont pu voir. Enfin, ces trois hommes, puisque assez vite, ils vont finir par être trois, vont... découvrir.
Le blanc était en retrait.
Ce qu'ils vont découvrir dans cette Italie. Alors, à défaut d'aller lire Cochin dans le texte, je vous propose de découvrir ce voyage à travers le récit qu'en donne Monique Demany dans Le rêve de Marigny, c'est édité chez Lattès.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec une émission aujourd'hui consacrée au marquis de Marigny, c'est le frère méconnu de la marquise de Pompadour. Et pourtant, Franck, nous voyons avec vos invités depuis tout à l'heure qu'il a un destin fascinant.
Et oui, il a été l'homme des beaux-arts. Et Dieu sait que c'est important sous un règne extraordinairement magnifique comme celui de Louis XV. Il a été l'homme des beaux-arts de 1751 jusqu'à 1773. Donc c'est tout à fait majeur. Il mourra beaucoup plus tard. Alors, ce qui est amusant, on peut peut-être dire un mot de ça, Monique Demany, c'est que sa sœur voulait à tout prix, elle est morte, elle, en 64. Elle voulait à tout prix le marier, son frère, et finalement, son mariage ne sera pas un mariage.
Elle voulait le marier haut.
Oui, bien sûr.
Parce qu'elle voulait l'élévation de sa famille.
Oui. Elle voulait asseoir le nouveau statut.
Et je pense que Marigny avait gardé quelque chose que peut-être beaucoup de gens ont, le souvenir de son enfance avec une famille chaleureuse. Parce que le Normand de Tourneheim, les poissons, les enfants, tout ça, ça faisait un groupe familial qui était très chaleureux. Et il pensait que ce mariage trop haut ne lui apporterait pas ça, je crois. Et puis, on l'avait assez moqué, en quelque sorte, et je crois qu'il ne voulait pas, jusque dans sa famille, être méprisé. Il était très susceptible, mais il avait de quoi l'être, si vous voulez.
Par sa situation,
il avait eu un rôle difficile.
Mais son mariage n'a pas été heureux.
Et son mariage n'a pas été heureux. Il a fait le pire mariage qu'il aurait pu faire. Il a mieux fallu qu'il se marie avec une princesse, la princesse de Chimay, comme voulait sa sœur, et qu'il soit tranquille. Alors que là, il a épousé une arriviste qui, finalement, ne lui a rien apporté. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Moi, je pense que jusqu'à la fin de sa vie, sa sœur a été morte et qui était la dernière de sa famille qui soit près de lui, eh bien, je pense que c'est Soufflot et Cochin qui étaient sa famille, en fait.
Oui, c'est ça, en fait.
Était proche de lui parce qu'en plus, il partageait la même passion.
Il avait succédé à sa sœur, il a hérité de la marquise de Pompadour. C'était un héritage difficile, au demeurant, où il y avait au moins autant de dettes que d'actifs. Mais il a hérité notamment la très belle propriété de Ménard, à côté de Blois.
Oui, effectivement. Et il aimait beaucoup, il l'a fait bien sûr. Alors, elle avait été déjà remaniée, cette propriété, par Gabriel. Et bien entendu, Marigny a fait remanier une nouvelle fois par Soufflot. Si bien que...
Comme par hasard.
c'est parce que, bah oui, c'était, c'était autre chose. Hein. Il a fait faire son magnifique escalier qui monte à sa bibliothèque, qu'il a fait faire par Soufflot. Et il a fait faire ses jardins aussi par Soufflot. Ouais. Mais sauf la chinoiserie que Soufflot ne voulait pas faire parce qu'il n'aimait pas les chinoiseries. Mais c'est magnifique.
Xavier Salmon, pour un conservateur général de collections publiques, les collections privées du marquis de Marigny à Ménard font rêver, j'imagine.
Ah oui, oui, à Ménard et à Paris.
Et à Paris, bien sûr. Hein.
Parce que bon, il ne faut pas oublier qu'il a acquis la cordée de village de Greuze en 1761, qu'il a aimé à s'entourer d'œuvres d'Hubert Robert, qu'il avait ce mobilier de goût anglais avec ses lignes toutes sobres, l'acajou, et qu'il a développé dans ses intérieurs un goût tout à fait novateur avec les plus grandes créations de Benne.
Le menu est sur Europe 1, extrait des Indes Galantes, à nouveau de Jean-Philippe Rameau-Franck.
Le jeudi 31 août 1780, Marigny quitta le fauteuil où il était maintenant le plus souvent cloué. Malgré la fatigue qui ne le quittait plus, il accompagna Cochin en l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois pour le service funèbre de Soufflot, et ce fut un dernier déchirement, l'un des plus durs. Soufflot était mort. Comment Soufflot pouvait-il mourir? Le génie mérite l'éternité et l'amitié. Marigny s'affolait. Ils étaient tous partis. La petite Alexandrine avait mené la danse macabre, François Poisson l'avait suivi de si peu, et Jeanne, qui était encore jeune, et maintenant Soufflot, l'irremplaçable ami. Le roi aussi avait quitté ce royaume. Le monde autour d'Abel n'arrêtait pas de s'effriter. Que restait-il pour s'accrocher encore un peu? Comment persister dans des temps qui changeaient trop vite et qu'il ne reconnaissait plus? Comment se survivre à soi-même? Les repères s'effaçaient, Abel ne trouvait plus sa place. Vous nous dites, Monique de Magny, que le monde qui avait été celui de Marigny, évidemment, s'en va à la faveur du règne de Louis XVI. Et vous imaginez, pour finir, pour clore ce livre, une promenade qu'il effectue, une sorte d'itinéraire aux côtés de Cochin, toujours Cochin, à travers les grands sites parisiens. Qu'on lui doit, bien entendu, l'église Sainte-Geneviève, qui deviendra le Panthéon, bien entendu, l'église de la Madeleine, dont il a juste lancé le chantier. Il y a, dans ce Paris classique, dans ce Paris à l'antique que nous aimons tant et qui fait tant pour la réputation de notre capitale, il y a partout la signature de Marigny.
Tout à fait. Et j'avais envie de cette promenade parce qu'en fait, c'est vrai que Marigny, presque mourant, sent bien sûr que le monde dans lequel il a vécu est en train de s'écrouler, mais il a préparé un autre monde. Et ça, c'est la victoire de Marigny, de Soufflot, de Cochin, de tous ceux qui ont vu plus loin que des choses étriquées.
Alors il reste évidemment, parce qu'il a été l'un de ceux qui ont aménagé le quartier des Champs-Élysées, il reste à Paris l'avenue de Marigny, l'hôtel Marigny également, le théâtre qui porte le nom de l'avenue, mais donc du personnage. C'est peut-être la seule façon par laquelle on le connaît encore. Xavier Salmon.
Oui, parce que c'est vrai que tous ces bâtiments, malheureusement, ne sont pas contemporains de Marigny. Et donc, aujourd'hui,
c'est
un nom
qui
n'évoque plus qu'une localisation et pas absolument cet extraordinaire mécène et protecteur des arts, introducteur du goût néoclassique qu'il a été en France.
On va lui rendre bientôt hommage, me disiez-vous.
Oui, on a prévu de lui rendre hommage à Blois à partir du mois de juin, en réunissant justement un ensemble d'œuvres qui lui ont appartenu et qui permettront d'évoquer cette personnalité extraordinaire. Et à cette occasion, le château de Ménard sera exceptionnellement quelquefois ouvert pendant la durée.
Le château Ménard est privé, il ne se visite pas, mais
non.
Là, en l'occurrence, on pourra y aller.
Il y aura quelques visites d'organiser et découvrir ces admirables jardins en terrasse qui s'étagent le long de la Loire.
Je suis ravi qu'on ait pu parler de ce personnage. Je me demandais depuis longtemps comment le faire. Eh bien, c'est grâce à l'ouvrage de Monique de Magny, Le rêve de Marigny, chez Lattès, que nous avons pu le faire. Il faut dire, Monique de Magny, que nous avons seulement effleuré le sujet. Nous avons parlé beaucoup de ce voyage en Italie, mais il y aurait énormément d'autres épisodes d'une vie extrêmement riche à raconter. Je laisse à nos auditeurs le soin de les découvrir par eux-mêmes. Merci à vous deux d'avoir été des nôtres. Et puis, je vous renouvelle, cher Xavier Salmon, cette invitation. Nous allons bientôt parler de Fontainebleau. Il y a tellement, tellement à dire sur le château des rois, le palais des siècles.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.